Avertissement, il ne s'agit pas d'un épisode classique dans l'intervalle, mais de l'enregistrement d'une rencontre ayant eu lieu le 29 mars au cinéma Arvor de Rennes en compagnie de Alexandre Caudal et Simon Pageot autour du film Your Name. Si vous voulez écouter des épisodes un peu plus classiques, on vous conseille de voir ailleurs. Mais si un échange sur le film vous intéresse, alors n'hésitez pas à écouter cet épisode.
Bonsoir à tous, vous m'entendez ?
Je pense.
Merci à tous pour cette belle salle, là. Vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Donc c'est une nouvelle séance Japanime, ça faisait quelques temps qu'on n'en avait pas fait, et puis une nouvelle fois là, on a fait appel à deux cadors de la Japanimation, donc deux animateurs en tout cas du podcast En Intervalle, qui est un podcast qui est consacré au cinéma d'animation, mais sous toutes ses formes, c'est-à-dire pas spécialement sur la Japanime, mais vraiment toute l'animation en général. Donc moi je suis Antonin du cinéma Arvor, bon, c'est des rendez-vous qui ont lieu en partenariat avec les librairies Japanime. Vous savez sûrement que la semaine prochaine, en tout cas le 6 avril, on va faire une avant-première du nouveau film de Makoto Shinkai, Suzume. On l'aura évidemment à l'Arvor à l'affiche par la suite lors de sa sortie nationale. Je ne m'étends pas plus, je laisse la parole à Simon et à Alexandre qui vont vous présenter le travail de ce réalisateur et puis ce film en particulier. Merci à tous.
Bonsoir. Donc on va juste introduire rapidement quelques éléments sur notamment sur Makoto Shinkai. Donc avant d'être découvert par le monde entier avec Your Name qui avait été un sacré retentissement, il avait commencé dans les années 90 à travailler sur des illustrations pour des jeux vidéo comme des visual novels ou certaines cutscenes pour des RPG, et en parallèle de quoi, il travaillait lui-même sur des courts-métrages comme Voices of a Distant Star, Other Worlds, She and Her Cat, qui réalisait en fait quasiment en solo sur son Mac avec des logiciels Adobe. Et il s'est plus ou moins fait la main tout seul comme ça, en faisant lui-même les doublages, en faisant lui-même également les bruitages. Il sera finalement découvert, je crois que c'était à la suite des 5000 copies faites maison de She and Her Cat. Au fur et à mesure des projets, il va commencer à développer cette sensibilité d'instant fugace un peu, de romances adolescentes, qui détaille très souvent, notamment, enfin, on le voit un peu ici, là, sur la capture d'écran, avec des fonds très très détaillés. Enfin, on retrouve pas mal dans ses backgrounds ses qualités de travail d'illustrateur de formation. Il trouve quand même une espèce d'équilibre, on peut dire, à partir de Your Name. Enfin, il essaye dans ses premiers films de mêler avec des éléments de science-fiction, de fantastique, voire de merveilleux, comme c'est le cas dans Agartha. Il est lui-même très fan de Ghibli et de Miyazaki, et il essaye d'imiter le maître, comme pas mal d'animateurs au Japon. Mais à partir de Your Name, il me semble, en tout cas, on pourra revenir dessus, qu'il trouve lui-même sa formule et sa propre voix, si on peut dire. Voilà. Enfin, je ne vais pas beaucoup en dire plus, on va en garder pour après. Merci beaucoup.
Oui, en tout cas, on vous invite à rester à l'issue de la séance si vous voulez entendre quelques pistes d'analyse de votre part, en tout cas sur le film, et puis aussi à réagir, enfin, que vous fassiez part de vos réactions. En fait, déjà, qui n'a jamais vu le film, qui va le découvrir ? Donc ouais, finalement, c'est une minorité. Donc comme quoi, c'est un film qui a bien marché et que les gens ont envie de revoir. Bon, bah, en tout cas, merci à tous. On vous souhaite une bonne projection. Et puis n'hésitez pas donc à rester pour après qu'on discute. Merci à vous.
Bonne séance. Rebonsoir. Donc on va prendre quelques minutes pour un peu rediscuter du film.
Nous, on aime bien le cinéma de Makoto Shinkai. Donc on était content que le film passe et de pouvoir en parler. Après, on n'est pas forcément non plus très spécialiste. Il n'y a pas forcément beaucoup de sources en français sur son cinéma, sur sa manière de travailler. Donc on ne va pas forcément faire très long. Pour revenir un peu sur le film, peut-être que vous y avez pensé pendant la séance, mais pour revenir sur quelque chose d'assez basique, c'est un peu la tarte à la crème pour parler du film, mais on peut commencer par là. Quand le film est sorti en 2016, il y a beaucoup de commentateurs au Japon ou en France qui ont pensez au fait que le film était une sorte de retour un peu rétrospectif sur le drame de Fukushima qui s'était passé en 2011, puisque le film sort en 2016. Il évoque un fait, une catastrophe qui se serait passée donc 3 ans avant 2016, donc en 2013. La catastrophe de Fukushima s'est passée en 2011. Donc voilà, on est à peu près dans ces eaux-là. En 2016, il y a un autre film qui va sortir au Japon qui revient de manière plus concrète sur la question de la catastrophe atomique, qui est un Godzilla, qui s'appelle Shin Godzilla, je crois, qui est aussi un très bon film. Et donc voilà, donc les deux films vont sortir en même temps. C'est un peu la première fois depuis 2011 que le cinéma japonais va un peu prendre en charge la catastrophe qui s'est passée, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on... Je ne sais pas si vous y aviez pensé, mais en tout cas, il y a quelque chose de très marquant, notamment quand le garçon va arriver devant la ville détruite et qu'il va voir toutes ces barrières de protection avec zone interdite, etc. Qu'il va revoir un peu la scène. Il y a des images qui sont très marquantes, qu'on a pu voir un peu à la télévision quand la catastrophe s'était passée en 2011, etc. Donc voilà, c'est une des clés possibles pour comprendre le film. Pour parler un peu plus de Makoto Shinkai, c'est quelqu'un, comme l'a dit Alexandre un peu au début de la présentation, c'est quelqu'un qui, avant Your Name, donc en 2016, faisait des films qui étaient assez différents. C'est quelqu'un qui donc travaillait soit tout seul chez lui, en faisant des films un peu expérimentaux, qu'il a réussi à diffuser, puis après il s'est intégré un peu dans l'industrie du cinéma. Mais c'est aussi quelqu'un qui a travaillé dans le visual novel. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais ça peut être notamment des jeux vidéo. Qui sont basés sur des récits. Donc ça peut être des point and click ou ce genre de choses, pas que, mais qui sont basés sur des récits un peu emberlificotés. Bon, je ne suis pas spécialiste du sujet, donc si quelqu'un
connaît très bien... C'est un peu des jeux de discussion, si vous voulez, enfin, des sortes de romans graphiques interactifs. Je voulais juste revenir sur le lien que tu faisais avec Shin Godzilla, enfin je t'interromps, mais c'est qu'il y a quand même une différence notable entre les deux, c'est qu'il y a enfin, quelque chose qui est profondément absent de Your Name à l'inverse de Shin Godzilla, c'est qu'il n'y a absolument pas la présence voilà, du nucléaire, comme c'est le cas avec Shin Godzilla, où de toute façon Godzilla n'existe pas sans radiation, la salamandre ne peut pas devenir gigantesque. Enfin, reste quand même cet élément de désastre avec le cratère inondé comme ça qui peut faire penser aux zones sinistrées ou qui étaient recouvertes de débris après le tsunami donc.
Je voulais dire que vous avez raison parce qu'en fait au Japon le Fukushima comme on l'appelle en fait le nucléaire c'est vraiment une petite partie du désastre parce que en gros Fukushima il n'y a eu pas eu de mort. Il y a eu un mec qui a fait un arrêt cardiaque parce qu'il travaillait trop. Sinon, le tsunami, il a fait 18 000 morts sur plusieurs centaines de kilomètres et ça a été un vrai désastre. Et ce dont vous parlez, voilà, vraiment les images de juste les débris entassés, c'est un truc, notamment dans le film La famille Asada, où on va voir là-dessus. Et vraiment, c'est ça qui a marqué le plus le Japon plutôt que le nucléaire. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'entend pas parler là-dedans. Mais c'est un truc, nous, Européens, on a surtout vu la centrale et pas du tout le tsunami à côté, voire même on a fait l'amalgame entre les morts du tsunami et les morts de la centrale. Donc je pense qu'il faut shifter un peu effectivement et se rendre compte de ce qui a vraiment traumatisé le Japon là-dessus. Quoi.
Ouais, on était sur 650 km de côte touchés par des vagues qui pouvaient atteindre plus de 10 mètres. Enfin, n'allez pas regarder les reportages de la NHK, c'était pas une bonne idée pour se documenter pour la présentation. Enfin, je voulais surtout rebondir sur une manière très japonaise, mais qui a été définie et reprise pas mal par des occidentaux, de traiter de la catastrophe d'une façon qui exemplifie très bien le film et qui s'appelle le Sekai-kei, qui consisterait en fait en nouer tous les enjeux de cette catastrophe dans les mains d'un nombre très restreint de personnes et dans leurs interactions. La solution, le salut en fait de la catastrophe dépend des interactions entre les personnages et de leurs relations. Et c'est quelque chose que de toute façon Makoto Shinkai travaille depuis quasiment ses premiers courts-métrages avec, j'en parlais aussi avant la séance de Voices of a Distant Star, où il est question de guerre interstellaire et de robots géants, et du coup de deux lycéens, encore une fois, qui, là c'est pas le temps qui les sépare, mais ce sont les années-lumière. Et les SMS que la jeune fille dans le robot géant envoie à son camarade n'arrivent que des années et des années plus tard du fait de la relativité. La guerre continue d'être en cours et il s'inquiète profondément pour elle parce qu'il peut pas avoir de nouvelles en temps réel. C'est quelque chose voilà, qu'il travaille depuis longtemps et qu'il a cessé de modifier petit à petit. Ouais.
Mais du coup, cette idée de CKK, qui a un genre un peu, qui a été défini un peu comme un sous-genre de scénario, quoi, qui est à la fois très présent dans la production de masse au Japon, mais également dans le cinéma de Shinkai. Donc c'est cette idée aussi, et c'est ça qui est c'est intéressant, parce que c'est très présent dans ce film et dans d'autres films de Shinkai, qu'il y a une catastrophe à venir dont seuls les enfants ont la connaissance. Donc un groupe assez réduit d'enfants qui ont la connaissance, là c'est un couple. Le film de Shinkai que je préfère, qui est pour ma part Les Enfants de la Pluie, qui est sorti en 2019, qui est donc 3 ans après Your Name, qui est un peu dans la même veine, qui est vraiment un film que je trouve aussi très réussi. C'est pareil, il y a un couple d'adolescents qui ont un peu le secret d'une catastrophe à venir entre les mains. Il n'y a que ce couple qui a la possibilité de résoudre la catastrophe. Et à chaque fois, les adultes, les enfants vont essayer de prévenir les adultes, etc., qui vont être dans une sorte d'inconscience absolue de la catastrophe et de refus d'écouter la parole des enfants, quoi. Donc c'est quelque chose qui est très classique, hein, dans la production, soit des animés, soit cinématographique au Japon, puisque c'est effectivement quand on met le destin du film, le destin du monde dans les mains d'adolescents, bah voilà, ça parle aussi aux adolescents qui vont être le public pour recevoir le film, quoi. Mais c'est quelque chose qui intéresse Shinkai. J'ai l'impression, en voyant juste la bande-annonce de Suzume avant le film, c'est sans doute quelque chose qu'il y aura encore dans le film que Shinkai va sortir en 2022. Bon, pour continuer un peu à parler, quelque chose qui m'intéressait dans ce film et que je trouve vraiment très remarquable dans le cinéma de Shinkai en général, c'est la manière dont le réalisateur va mettre en scène des moments prégnants, des instants d'émotion un peu en permanence. C'est en fait des sortes d'instants d'émotion, de rencontre, de sentiments, de compréhension de ce qui se passe. Donc c'est très présent avec le duo qui va tout d'un coup être voilà, en possession d'un souvenir qu'il avait oublié, ou alors vont se rencontrer comme ça sur ce qu'on devine être le cratère d'un...
catastrophe,
une ancienne catastrophe, etc. Bon, j'ai l'impression que ça c'est quelque chose qui est très très présent dans son cinéma, quoi. C'est-à-dire une volonté de mettre en scène des instants d'émotion très forts qui vont se répéter continuellement et d'être dans une vision du temps qui serait une vision avec des coupes instantanées de présent qui se répéteraient en permanence. Enfin, qui, non pas qui se répéteraient, mais qui seraient coupées en permanence et qui s'y additionneraient en permanence comme ça, quoi. Donc c'est un peu abstrait dit comme ça.
Un moment où c'est très clair, c'est lorsque, avec, alors j'ai oublié le nom de ses acolytes, mais lorsque Taki va dans les montagnes pour essayer de retrouver Mitsuha avec ses acolytes, donc c'est tous ces moments où on les voit jouer aux cartes, faire les trajets, et c'est, ça va être ces enchaînements, comme tu dis, d'instants, de plans d'insert, de plans de coupe, tous ces plans qui sont juste sur des décors, sur les plans de bouffe, par exemple, ces plans très étudiés, très finement faits de plats en train de chauffer ou d'être servis, relèvent de ces sortes d'instants, de pointes de présent, comme ça, de choses qui s'enchaînent et qui tiennent pas mal de quelque chose de l'impression. Aussi, il essaye de traduire vraiment, plutôt que de traduire, de saisir dans ces instants qu'il essaye de reconstituer, les émotions et les impressions qui saisissent les personnages. C'est quelque chose qui lui est assez caractéristique, notamment dans la façon qu'il va avoir de travailler les fonds. J'en parlais un petit peu pareil en présentation. Mais il faut savoir que les fonds qu'il fabrique, par exemple, sont des photos dont sont effacés les détails et sont conservés seulement les couleurs de base. Ces couleurs-là ne lui suffisent pas et Shinkai a le souci du détail pour le coup et va rajouter énormément de couleurs, énormément d'effets numériques par-dessus, de traitements, de filtres pour créer ces effets de faisceaux de lumière, de lumière rasante comme ça qui arrive dans le visage des personnages, enfin, quasiment des effets de lentilles aussi avec des diffractions comme ça, enfin, rajouter des couleurs pour créer des nuances, etc. Et de sorte un peu à ce que chaque fond permette au personnage d'être bien ancré, très physiquement en lien avec l'environnement qui l'entoure et quelque part déjà traduire l'état dans lequel il se trouve. C'est-à-dire, il y a toujours un peu une concordance entre les environnements dans lesquels il se trouve, notamment tu parlais de cette scène au bord du cratère avec ce coucher de soleil, ça aussi ça va être un peu tarte à la crème, mais qui annonce peut-être un peu déjà la fin de l'histoire. Il ne reste plus beaucoup de temps avant que tout ne soit résolu et qu'il n'ait bientôt plus aucune chance de pouvoir rejouer le jeu et rebattre les cartes. Mais il est constamment, enfin je pense, dans cette idée de saisir cette sensibilité-là, de ces instants, de les mettre en lien avec l'histoire un peu plus grande, ouais, de la catastrophe. Hein.
Et par ailleurs, il y a des couchers de soleil dans tous ces films, il y en a énormément. Voilà, là, c'est un peu mis de manière un peu... comme dans les teen movies à l'américaine, il y a la prof au tableau qui va noter un mot, crépuscule, puis à la fin du film, on s'aperçoit que le crépuscule, c'est hyper important, etc. Voilà, comme dans les teen movies où un prof de théâtre ou de littérature va évoquer Shakespeare, et puis tout d'un coup, à la fin du film, on va s'apercevoir que la morale de Shakespeare, c'est la morale du film. Voilà, bon, là, il y a un peu ça. En tout cas, les crépuscules, qui est le mot qui est écrit au tableau, que je ne pourrais pas redire en japonais, parce que je ne parle pas japonais, c'est quelque chose qui est très, très important dans le cinéma de Shinkai, il y en a un peu tout le temps. Et à chaque fois, fois, c'est des moments assez beaux, pleins d'émotions, où on voit effectivement ces personnages qui sont pris dans les raies de lumière et qui vont former des ombres un peu portées, des ombres portées qui sont portées sur rien, sinon sur l'air et sur l'espace qu'il y a entre les personnages et le décor, quoi. Et ça donne des moments toujours très, très beaux, qui sont un peu des acmés dans le film, quoi.
Enfin, je suis d'accord avec vous pour la lumière et j'irais même un peu plus loin dans la technique. Et c'est un truc que je n'ai pas vu encore trop dans l'animation japonaise et je pense qu'il est arrivé vraiment avec l'avènement du numérique. Et en fait, c'est la gestion de la lumière et surtout de la couleur de température de la lumière, qui est un truc qu'on retrouve beaucoup en photographie avec la balance des blancs et tout, parce que c'est comme ça que fonctionne la photo, mais qui effectivement en peinture, notamment en numérique, n'est pas forcément arrivé parce que ça demande beaucoup d'efforts en fait, de gérer ça. Et que le numérique, avec les filtres qui permettent de gérer en fait vraiment la façon dont la couleur va interagir avec les filtres, ça permet d'avoir en fait une teinte légèrement jaunâtre sur les moments du film où par exemple le soleil est plus bas ou quand on a envie que ce soit un peu plus chaud, et au contraire dans les ombres un peu plus bleuté, plus froid. Et c'est un truc qui est dans peu de films et que Makoto Shinkai utilise énormément, et je pense qu'il permet d'ancrer encore plus vraiment ce réalisme en fait, parce que les images prennent une toute autre dimension. Si je prends les Ghibli sont extrêmement ternes, alors ils sont magnifiques, mais ça reste une lumière très blanche, très neutre en fait, et cette lumière plus jaunâtre en fait elle est beaucoup plus naturelle pour nous. C'est un truc qu'on a l'habitude de voir, dont on se rend pas compte, mais qui permet de donner tellement de dimensions finalement aux scènes, que ce soit pour les décors ou même que ce soit pour les personnages, qui du coup ressortent vraiment avec cette lumière là qui varie en plus tout au long de la journée. On peut le voir avec les time-lapse qui sont faits, on voit le soleil en fait qui traverse le ciel et du coup toute la lumière qui change dans l'environnement. C'est vraiment un travail de lumière qui est absolument monstrueux et magnifique. Et je ne sais pas du tout comment ils font pour rendre ça, parce que c'est un enfer de manière générale à gérer la lumière sur une image normale. Alors des images animées, 12 images par seconde, c'est magique. Donc voilà.
Je pense honnêtement qu'ils sont une armée. Enfin, je lisais des entretiens en fait de Makoto Shinkai, et c'est, enfin, dans un artbook, il y a un artbook qui est concentré exclusivement sur ses backgrounds, ses fonds, ses décors. Certains des artistes de ses équipes expliquaient que Shinkai les avait formés lui-même à la tablette graphique et à donc After Effects et Photoshop. Je crois que c'est toujours ça. Ils ont peut-être changé de licence ou de logiciel depuis, mais ils voulaient être sûrs, en tout cas en les formant lui-même, de pouvoir obtenir, comme il les voyait, aussi détaillés qu'il pouvait les lui rendre, quoi. Enfin, c'est-à-dire, étant donné qu'il est plutôt seul aux commandes, comme c'était le cas sur ses premiers projets, il faut bien qu'il, enfin, comme tout réalisateur d'animation au Japon qui dirige des équipes, c'est-à-dire commencer à former ses équipes et avoir en quelque sorte des apprentis, quoi.
Et pour revenir sur la lumière et pour vous inciter à voir Les Enfants de la Pluie, si jamais vous ne l'avez pas vu, mais je pense que vous l'avez vu en l'occurrence. Mais il y a énormément de jeux avec la lumière, puisque pendant tout le film, quasiment, il pleut sur Tokyo. De manière un peu... c'est un élément très important de l'histoire du film, mais il pleut en discontinu sur Tokyo. Et il y a un des deux personnages principaux qui a la capacité de faire revenir le soleil par intermittence et d'écarter les nuages pour que le soleil apparaisse. Et il y a plein de moments qui sont magnifiques, avec des jeux de lumière, des jeux de reflets dans l'eau, parce qu'effectivement, vu qu'il pleut tout le temps, la ville est recouverte de flaques d'eau en permanence. Et il y a plein de moments assez magnifiques comme ça, où tout d'un coup, les nuages vont s'écarter, le soleil va apparaître, et il va y avoir des dégradés de lumière qui vont passer en quelques instants, et qui vont un peu inonder le plan, et qui vont donner encore une fois des instants très, 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 très forts, quoi. Voilà, moi j'étais très content de voir ce film, mais le film de 2019 est vraiment mon préféré. Si vous avez aimé celui-là, je vous incite vraiment à le voir. En attendant de voir Suzume en
2023.
Et voilà, c'était très sympa de parler avec vous en tout cas.
Merci beaucoup d'être resté.
Très bonne soirée à vous.
Merci beaucoup les gars.